19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Nous démarrons cette toute nouvelle semaine. Eh bien, on est lundi tranquillement et nous allons vous embarquer dans cette nouvelle émission des informés pour une toute nouvelle semaine. Une heure de commentaires, d'analyse ou aussi de décryptage avec vous. Alors les débatteurs influenceurs, aujourd'hui on reviendra sur ce fameux nouveau gouvernement. Le casse-tête, peut-on parler d'une crise politique puisque la première ministre doit impérativement former son tout nouveau gouvernement, ce qu'on appelle ce gouvernement d'action. Dès début juillet, a annoncé Emmanuel Macron. Ensuite, nous parlerons aussi d'un autre sujet, vous savez, c'est celui du G7. G7 avec notamment Zelensky qui fait pression pour faire stopper ou permettre fin à cette guerre en Ukraine, alors que la Russie aujourd'hui vient de connaître un missile russe qui a frappé un centre commercial. On en parlera tout à l'heure. Autre sujet aussi, faut-il augmenter avec l'annonce de Pape Ndai qui lui souhaite, il promet 2000 euros, donc la revalorisation des salaires, mais surtout on parlera d'une chose, faut-il revaloriser l'ensemble des salaires du service public, y compris du service privé? Comment, pourquoi les employeurs, les entreprises peuvent-ils jouer le jeu, pouvoir d'achat? Le gouvernement évidemment met la pression, on en parle avec les débatteurs influenceurs. Et puis un seul numéro, c'est le vôtre, 01 53 48 3000. Vous nous appelez, vous le faites comme d'habitude, très bien, et vous commentez les sujets qui souhaitent vous interpeller, enfin, qui vous ont interpellé, pardon, à ce numéro 01 53 48 3000. Voilà le programme que je vous propose, c'est parti, et surtout, en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
C'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face. Le
face-à-face. Ça vous fait rire, hein, le commandant. Ouais. Ah, l'ancien commandant, ça le fait rire. Commandant
de police. T'as ça comme un combat de boxe.
C'est ça, mais exactement.
J'ai peur qu'il mette une droite. Hein.
Mais c'est ça, tu sais, finalement, c'est quoi le débat?
C'est que de l'amour.
Le débat, c'est un espèce de combat, de combat de jeu de mots.
Ou d'échange.
Bah, combat d'échange de mots.
Voilà. C'est un battle
de mots. Comment ça va?
Très bien.
Tout va bien?
Très bien.
Jean-Pierre Colombiès, qui est l'ancien commandant, mais surtout aujourd'hui reconverti dans le théâtre. Quelle est la prochaine d'ailleurs pièce?
La prochaine pièce, ce sera une comédie policière qui s'appelle Piège pour un homme.
Ah, c'est bien ça.
Absolument. Ça change du testament de Communard. Là, on va être dans un registre plus léger, moins historique, et ça va faire du bien aux neurones de rire et de sourire.
C'est bien d'alterner
les styles et les genres.
C'est bon. En face de vous, justement, vous avez Ahmed Lawedj, le patron du PRG. Bonjour. Comment ça va, patron?
Bonsoir, Adil.
Ça va bien.
Bonsoir aux auditrices et aux éditeurs.
Oui. Bon, tout va bien?
Bah, écoutez, oui, c'est la fin.
C'est la fin de quoi?
C'est la fin, là. Ça y est, bientôt les vacances.
Oui, enfin, ça,
Après une année assez dure.
Assez douloureuse, je peux dire. Oui, c'est vrai.
C'est la fin, ça demande de quoi? Ouais.
Mais je m'attendais, je sais pas, il me dit c'est la fin, mais la fin de quoi? Je sais pas. Mais
c'est ça, c'est le.
Pour certains, vous savez que les vacances, c'est dans un mois et demi.
Non, mais surtout pour les enfants.
Pour les enfants.
Ils sont fatigués.
Je voudrais entendre les parents, ce soir. Est-ce qu'ils trouvent leurs enfants fatigués? Est-ce qu'ils ont hâte de partir en vacances? Tiens, je voudrais vous entendre 01 53 48 3000. Tiens, je vais lancer un sujet de société. Est-ce que leurs enfants sont fatigués en cette fin d'année? Comment ils trouvent leurs enfants? Tiens, on voudrait entendre les mères de famille, les pères de famille, les papas, les mamans, les grandes mamans, tout le monde, les grands-pères. Je vous attends au standard 01 53 48 3000.
La maltraitance des enfants.
Mehdi Jaziri.
Un enfant, tiens. Voilà.
Un jeune enfant.
Oui, c'est ça. Vous voulez un bonbon ou pas? J'ai ramené des bonbons.
Non, merci.
Bonbons au Coca-Cola.
Non, vous allez casser nos dents.
Je vais pas dire la marque.
Non, merci. C'est gentil.
Ça coûte trop cher, les implants.
Ouais, ça coûte trop cher. C'est ça, clochette. Jeune journaliste, notre ami Mehdi Jaziri. Messieurs, nous allons tout de suite commencer le premier sujet. Vous savez quoi? Alors, Macron, lui, il veut un gouvernement d'action. Ah. Mais avant de lancer le débat, Jean-Pierre Colombiès, on a échangé par SMS et vous vouliez d'abord aborder un sujet.
Bah, c'est dans la
droite. Je vous laisse le choix, allez-y.
Vous avez un petit peu titillé, très cher.
C'est vrai. J'aime bien titiller, moi.
C'est des réflexions qu'on a échangées par rapport à l'ambiance qui va régner dans l'Assemblée nationale dans les jours et les semaines qui s'annoncent. C'est pour ça que je pense que l'été ne sera peut-être pas aussi tranquille que ça.
Ah, ça va être l'intifada. Hein.
Ouais, je pense que ça risque d'être assez rock'n'roll.
Non, ça, c'est vrai.
Par rapport à ce qui est en train de se passer, à la recomposition du paysage politique, moi, il y a plusieurs réflexions qui sont venues.
Oui.
Et en tout cas, il y a une observation que je voudrais faire, et je trouve qu'elle n'est pas assez reprise par les journalistes et les médias, c'est sur la légitimité du président de la République, que tout le monde nous présente comme étant un président légitime. Alors, je dis,
mais
oui, il est élu, c'est légal. Il
vous en voulez, vous, à Macron,
hein ? Non, moi j'aime les faits. Richardine, moi j'aime beaucoup les historiens, j'aime beaucoup l'histoire, et je me réfère à ce que disent
les historiens. Chaque fois que je le reçois, il tape.
Et les historiens sont factuels.
C'est Macron.
Or, oui, bah, Emmanuel...
Je t'aurai
Il court plus vite que moi, c'est bon, j'ai une jambe en bois maintenant. Emmanuel Macron est élu, je crois, premier tour, sélectionné à la compétition de la présidence avec 25 ou 26%, ouais. Corrigez-moi si je dis une erreur, des suffrages exprimés. Sur la base d'une abstention de 30%, à peu près, nous sommes d'accord. Plus ou moins, à peu de choses près. Ce qui signifie quoi ?
Je vais éteindre la télé, parce qu'on entendait la télé avec vous.
C'est un peu dommage. Ouais. Ce qui signifie concrètement qu'au premier tour, Emmanuel Macron recueille l'expression de 18% de la population inscrite. Je dis bien inscrite. Donc vous m'accorderez que c'est relativement peu. Je ne dis pas que les autres font mieux, ils font bien moins. C'est leur chiffre est bien moindre, c'est clair. Mais il faut admettre aussi que cette élection, c'est un peu le bal des cancres. Il faut admettre qu'on n'a jamais vu de mémoire de personnes s'intéressant à la politique, d'un tel panel de candidats à l'élection présidentielle. Pour ma part, je n'ai jamais vu ça. Alors, première fois que je vois ça. Donc là où je veux en venir, c'est que, un, premièrement, le président actuel ne représente qu'environ 18% des inscrits.
Mais il est élu.
Et qu'au deuxième tour, il est élu avec les voix de la gauche. De la gauche. Et là où je vais vous embarquer, très cher Adil, c'est que la recomposition gouvernementale ne pourra pas s'extraire sur la durée à court, moyen et même long terme en ignorant ce qui s'est passé au cours de cette élection avec l'émergence du Front National qui, au deuxième tour de l'élection, fait 40%.
89, c'est historique. Hein.
Et qui récolte 89 c'est députés. Rien, hein. Mais ça en fait le premier parti d'opposition au Parlement.
Je suis avec
que ça fasse plaisir ou pas.
Sûr,
c'est comme ça.
Sûr.
C'est factuel. Je suis que dans le factuel. Hein.
Je suis pas dans le parti. Pour moi, c'est le premier parti.
Je suis pas dans le parti. Donc là où je veux en venir, c'est que lorsque monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, dit à madame Borne, qui est un premier ministre choisi par défaut, rappelons-le, lui demande, parce que c'était pas sa première candidate, c'était pas la première personnalité qu'il avait envisagée. Il lui demande.
C'était une socialiste.
Hein. Oui,
il avait demandé.
Et après, on sait ce que les socialistes sont devenus.
On est bien d'accord. Merci.
Valérie Rimbaud.
Je vais terminer là-dessus. Il donne pour mission à Emmanuel Borne de créer un gouvernement d'union nationale. Alors, je sais pas trop dans sa tête ce que ça veut dire, parce qu'il nous réserve toujours.
Vous avez dit quoi, Borne ?
Non.
Son prénom ? Elisabeth.
J'ai dit Emmanuel.
Vous avez dit Emmanuel Borne.
Ah mince, oups. Oh, c'est pas bien.
Quel lapsus.
Ça mérite deux clochettes.
Emmanuel.
Donc il confie.
De toute façon, j'écoute.
Madame Borne, il confie à Madame Borne.
J'ai entendu Emmanuel Borne.
D'un gouvernement. C'est un lapsus révélateur. Oui, parce que la pauvre, elle est quand même relativement diaphane. De la constitution d'un gouvernement d'union nationale, hormis la France Insoumise et le Front National. Donc il va récupérer. S'il veut obtenir son objectif, qui est donc d'appliquer le programme qu'il avait déjà essayé de mettre en place depuis 5 ans, de débaucher des talents de droite et de gauche, et surtout à droite, chez les LR. Et c'est là où j'en viens à ma petite idée qu'on a évoquée ensemble par messagerie, que moi j'aimerais bien qu'on impose un peu plus d'honnêteté morale dans ce Parlement en imposant ce que j'appelle le mandat impératif.
Mais c'est quoi le mandat impératif ?
Le mandat impératif, c'est tout simplement de mettre en obligation un élu qui abandonne sa famille politique d'origine à démissionner.
Mais ça va être un joyeux bazar ce que vous racontez.
Non, ça s'appelle l'honnêteté morale et l'honnêteté politique.
On a déjà assez de problèmes comme ça pour en rajouter.
Je suis pas sûr. Je crois qu'aujourd'hui, là où il a raison. Là où je lui donne raison à Christophe.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre, pardon. C'est comme.
Et Emmanuel Borne.
C'est Christophe Jean-Pierre. Je sais pas pourquoi j'ai. À Jean-Pierre, excuse-moi, Jean-Pierre.
Mais Christophe,
non, je pense que.
Ça là vous où, va bien, là Christophe
où,
aussi, hein.
Là où il a raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même, et ça, on n'en parle pas assez, un taux d'abstention énorme dans ce pays.
Considérable.
Ça, il ne faut pas l'oublier.
Ça, c'est vrai.
Donc, ça veut dire que déjà, il y a quand même un dégoût de la politique et des hommes politiques dans ce pays. Et ça, encore une fois, il faut le mettre, et je pense que c'est une des priorités sur lequel, d'ailleurs dans son discours Emmanuel Macron, l'a quand même dit...
55.
Voilà, et 55, voire dans certains départements, comme la Seine-Saint-Denis,
ça a monté à
68, voire 70.
Donc, de fait, ça, je suis désolé d'insister là-dessus, ça délégitime toute ambition nationale. Et ça fausse complètement.
Mais il a dit Emmanuel Macron ça. Il a dit, vous a entendu.
Là,
les abstentionnistes, il leur a parlé. Il a dit, je vous ai entendu, je vous ai compris.
Ouais, mais le problème, c'est qu'on les entend toujours.
Mais il leur a dit, monsieur.
On les entend toujours. Mais moi, je pense que là où je rejoins, c'est qu'à un moment donné, cette allocution,
vous rejoignez Jean-Pierre.
Cette allocution d'unité nationale, cette allocution de faire en sorte de projet par projet où ils vont faire en sorte de le présenter à l'Assemblée nationale, je vous dis, ça va être un foutoir.
Impossible.
Voilà, impossible à gérer, et je pense que là-dessus, il y aura une sortie. Cette sortie, c'est quoi ? Soit il met en place son conseil révolutionnaire, comme il explique, pour remettre en place les citoyens, pour essayer de faire un peu de proportionnel dans ce pays, pour que les petits partis aussi puissent exister, parce que ça aussi, le monde citoyen existe, hein, le monde politique citoyen existe, il se prépare aussi quand on les voit sur les municipales, de se présenter, et donc c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir des représentants pour essayer de faire en sorte d'avoir un équilibre politique, parce que ça a été quand même fait. De cette manière, c'est qu'on a eu pendant 15 jours de campagne où le RN, on ne les a pas vus à la télévision.
Oui.
Faut pas l'oublier. On a fait en sorte de monter en épingle Mélenchon. Oui, et comme vous le savez, comme
vous parlez comme Jean-Pierre
Mélenchon
maintenant.
Mélenchon.
Mais vous êtes du PRG, c'est ça, mais Mélenchon, nous, on est
du PRG, mais rappelle-toi, nous, c'est ni Macron ni Mélenchon.
Oui, ça, c'est.
Donc, à partir de là.
C'est Jean-Pierre qui est le PRG maintenant.
Donc, à partir de là, nous, c'était clair. Mais sauf que mon fil, tu me l'as fait perdre.
Pardon.
C'est que je pense que, à un moment donné, cette situation, il va y avoir, moi je pense, d'ici un an, une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ce sera un merdier.
S'il n'y a pas une explosion sociale avant.
S'il n'y a pas une explosion sociale. Et je pense que là-dessus, n'oubliez pas aussi que la France, elle est à 63% à droite.
Il faut arrêter
de dire que la gauche, elle a gagné.
Il faut arrêter
de dire que le NUPES a gagné.
Il faut arrêter. On n'a jamais vu, direction le standard, qu'on a appelé, qu'ils ont réussi à gagner
les élections. En vérité, tout le monde a perdu ces élections pour la simple et bonne raison que ceux qui ont gagné, c'est l'abstention.
Voilà. Et le Front National.
Mais en vérité, c'est l'abstention qui a battu tout le monde. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de débat.
Et le Front National,
qui est le premier parti d'opposition.
On passe quand même de 12-15 à 89 quand même. Marine Le Pen, je le rappelle, elle était surprise de
c'est
ça.
C'est l'INUPS avec les quatre formations politiques qui n'ont rien fait.
C'est remarquable. Excusez-moi.
Ici, Mélenchon, il a gagné une chose, c'est qu'il a quadruplé son groupe politique.
Oui.
Mais les socialistes, 23 ou 24. Les Verts, ils ont gagné.
Il faut déjà que la NUPS tienne à l'Assemblée.
Qu'est-ce que c'est?
Monsieur, vous permettez? Juste, je vais aller direction le standard numéro
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Certains, c'est priorité au direct. Nous, c'est priorité aux auditeurs.
Et on les
vous vous rendez compte, quand même
les respecte, voilà.
C'est les informés sur BFM. Fatia de Paris, bonjour Fatia.
Bonjour Adil, bonjour tout le monde.
On vous écoute, bienvenue.
Voilà, merci beaucoup. Je viens juste de prendre... parce que bon, la télé, c'est fini. On la boycotte. Enfin, personnellement, je la boycotte surtout information, etc. En ce qui concerne... Le sujet là, vous êtes en train de parler de gouvernement, etc.
Oui.
Moi, je vais vous dire aujourd'hui, j'appelle pas pour ça. Je vais vous dire, je vais parler d'enfants.
Oui.
Et là, une petite note concernant le sujet là,
oui,
de politique.
Oui.
J'étais à fond, depuis des années, sur la politique.
Oui.
Mais juste après les élections législatives, j'ai fait un coup d'angoisse, mais grave.
Ah bon?
Je cherchais le motif. Je n'étais pas bien jusqu'à avant-hier.
Pourquoi?
Il y a eu une émission de variété qui retournait, qui a concilié les nouvelles générations avec les anciennes des années 70.
Oui.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous cache pas.
Bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Fatia?
Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai confirmé mon angoisse quand j'ai entendu parler du nouveau gouvernement. Non, de la première ministre qui doit désigner un nouveau gouvernement où il n'y aurait ni FN, RN, pardon, Rassemblement National, ni les Insoumis.
Oui.
C'est-à-dire que là, d'ores et déjà, ces gens-là, ils sont franchement de côté. Comme a dit l'animateur sur France Bleu, d'accord, ils sont confinés. Bon. Maintenant, je passe parce que ça ne m'intéresse plus. J'ai vraiment, moi personnellement, j'ai très mal. Je sais pas, j'ai mal. C'est fini. Il y a quelque chose qui est cassé.
Le témoignage de Fatia, il est terrible. Hein.
Je vous le dis, c'est terrible, parce que depuis la semaine dernière,
je n'arrête pas à avoir des auditeurs qui nous disent ils sont dégoûtés de la politique. Vous vous souvenez tous la semaine dernière, tout seul,
le jeune
cadre de combien, il avait quel âge, 25 ans, 20, 30 ans à peine, qui m'a dit que j'étais dégoûté de la politique.
Il y en a
de plus en plus, Fatia.
Fatia,
vous voulez lui parler, Jean-Pierre?
Bonsoir Fatia.
Pardon. Pardon. Excusez-moi, je voudrais juste terminer parce que c'était pas mon objectif.
Non, mais c'est pas ce que je voulais.
Moi, je voulais parler d'enfants. Vous aviez parlé de vacances, etc.
C'est ça, oui.
Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand tout le monde enlevait les masques, etc. Bon, on nous a dit vous enlevez, etc. Moi, personnellement, je ne l'ai pas enlevé. Je suis senior, plus de 65 ans en plus.
Oui.
Donc, par mesure de précaution, je ne l'enlève que quand il n'y a personne autour de moi, dans un jardin.
Oui.
Dans le transport, je ne l'enlève jamais. Ma fille et mes petits-enfants, excusez-moi du terme, se foutent de moi.
Oui.
Hein. Alors, il se trouve que mon petit-fils de 12 ans, qui ne l'avait jamais enlevé,
oui.
même quand il adorait son masque, il avait un très joli masque, eh bien, bizarrement, ma fille, le jour de la fête de la musique, on est sorti, on a été faire un petit tour au parc de la Villette, et on est revenu à pied, etc. On a pris les transports. Ils se sont moqués de moi à me voir mettre mon masque pour juste trois
stations. Vous avez raison de le mettre. Non, je suis d'accord.
Eh bien, je vais vous dire une chose. Ils ont bien ri de moi. Je parle de ma fille et mes petits-enfants. Eh bien, aujourd'hui, mon petit-fils de 12 ans, depuis quelques jours, il n'est pas bien du tout. Ils l'ont emmené chez le médecin. Il lui a donné des antibiotiques, disant qu'il a une angine, etc. Mais ce n'était pas normal. Dans leur classe, déjà, il y a eu cas positifs de Covid. Il est en 5e. Et aujourd'hui, à 13h33, ma fille m'envoie le test positif. Elle me dit, maman, il faut que tu restes chez toi. Et nous, on vient, ni tu viens.
Ouais.
Il a le Covid, pourtant vacciné,
prudent,
hein, 12 ans.
Oui.
Donc, c'est pour dire aux parents inconscients ou insouciants
oui.
que le Covid tourne et qu'il faut se méfier,
surtout
dans les transports.
Je vous l'ai dit
la semaine dernière,
je vous l'ai dit, on vous l'a dit. Hein.
Moi, il est moins dur.
Il est moins dur, ça c'est vrai. Il est moins dur. Faut pas non plus, si vous voulez, dramatiser. Je vous redonne la parole, Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre voudrait échanger avec Fatia. Témoignage très important, poignant même. Presque. Fatia, merci beaucoup d'être intervenu, Fatia.
Mais vous avez vu, on a passé de la politique, on est repassé au Covid.
Au Covid, c'est ça.
Oui, mais c'est ça,
exactement.
Par hasard. Ouais.
Fatia, merci à vous.
Présence Covid, maintenant c'est la
merci, Fatia.
Tout le monde a eu peur.
J'écoute attentivement la suite à la radio.
Absolument à la radio. Je vous libère.
Au revoir.
Jean-Pierre va vous répondre et puis les autres débatteurs. Allez. À tout de suite. Reste avec nous. On se retrouve dans une poignée de minutes. 01 53 48 3000. Faites comme Fatia. On vous attend au standard. À tout de suite. Moi, j'aime les échanges avec les auditeurs. Ça nous permet de relever le pouls.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Vous faites comme Fatia, vous nous appelez, vous vous saisissez de votre téléphone, vous venez nous parler, échanger avec nous justement de la vie de vos enfants, comment vivent-ils justement cette fin d'année, est-ce qu'ils sont épuisés, fatigués du Covid, bref, de la politique. Vous venez, 01 53 48 3000, Jean-Pierre qui voulait répondre à Fatia, et ensuite après-midi Jaziri.
Oui, lui répondre, enfin pas vraiment lui
beau
répondre.
Beau témoignage. Hein.
Ouais, très beau témoignage et surtout très révélateur d'une ambiance globale. Et pas que cette
délétère.
Dame, ouais, mais complètement délétère. Mais il suffit d'allumer son poste, on l'a évoqué un petit peu.
Elle a dit, regarde plus la télé, elle est angoissée.
Mais c'est normal, vous avez un matraquage en permanence de mauvaises nouvelles. C'est quand c'est pas la guerre, c'est les élections qui se passent mal, enfin du moins que c'est un monde politique qui est complètement déstructuré.
Et revoilà le Covid, comme dit Ahmed.
Le Covid, on veut encore vous faire croire que vous allez être victime de la peste ou du choléra. Enfin, c'est insupportable. Tout ça.
Bah, Ahmed Lawache nous a rassuré. Il dit, c'est pas. Non, mais c'est vrai, je suis sérieux là.
Non, mais c'est vrai.
Là, il est pas dangereux celui-là.
Non, il est pas dangereux, mais il augmente. Mais d'ailleurs, même
les scientifiques le disent, c'est vrai.
Dans des départements, par exemple, comme la Seine-Saint-Denis, qui avait pris un pic énorme à l'époque des montées comme ça. Là, on est moins qu'à Paris.
Oui, mais
il y a plus de cas à Paris.
Vous avez raison.
La politique, c'est quoi? C'est tout simplement que le système hospitalier est en ruine et que si malgré tout ce virus, aussi faible art qu'il soit, provoque des hospitalisations, on ne sera plus en état de tenir. Ça rejoindra le sujet qu'on va évoquer sur l'augmentation des salaires.
Et ça me fait penser.
Mais dis-je,
c'est qu'en France, quand même,
on a cette
habitude en fait de prendre des minorités, des minorités de cas. Et en faire en fait toute la majorité dans les médias. C'est-à-dire, par exemple, chez les féministes, on va montrer les féministes extrémistes, et les pro-LGBT, on va montrer les LGBT extrémistes. Et là, pour ceux qui vont être dans les hôpitaux et qui vont crever, on va montrer que ça. Voilà. Et en fait, c'est pas du lavage de cerveau, parce que là, je pense que j'irais trop loin en disant ça. Mais je dirais plutôt que c'est,
un conditionnement.
Voilà. Et puis, c'est toujours, en tant que journaliste, voilà, je suis journaliste, je sais ce que je parle. En tant que journaliste, Adil aussi, tu peux être d'accord avec moi ou pas.
Non, je rigole.
mais c'est toujours, quand t'es journaliste, tu cherches des images plus choquantes, plus frappantes, importante, qui fasse plus de buzz. Montrer quelqu'un qui tousse deux minutes, ça fait pas le buzz, ça intéresse personne. Exactement. Montrer quelqu'un qui vient et qui dit bon, j'ai
fait. Là, vous parlez de l'info spectacle.
Pleure, voilà, c'est
Paris l'info spectacle. Le quasiment. Poids des mots, le choc des photos.
Donc, on est tombé dans ça. Et puis, comme on avait une mauvaise gestion de Covid au début, de la part du président de la République, quand même, on a gardé cette image.
Il a plutôt bien géré. Non,
au début, c'était mauvais.
Ah, au début, c'était mauvais.
Et on a gardé cette image-là dans la tête. On a gardé le fait, on s'est dit dans la tête.
Ne relance pas Jean-Pierre, parce que j'ai fait une émission une fois avec lui. Il m'a dit, arrête, les mains, c'est de sa faute.
Sur le Covid, de
c'est vrai, vous avez raison.
Moi, je dirais que c'est au début où il a mal géré. Après, pour moi, il a bien géré quand même. Par rapport à d'autres présidents,
je vais te contredire, si tu le permets.
Il n'y a pas de souci, je finis juste.
C'est pas le sujet, hein.
Et tu peux y aller.
Non, mais il a commencé, c'est lui qui
allez-y,
a commencé.
Allez-y. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet.
Je vais finir vite. Ce que je veux
on
dire.
On parle du gouvernement d'action quand même.
Je vais venir, et j'ai des choses à dire sur Macron, il va en prendre plein la tête aussi. Mais voilà,
Avec
tout le respect, bien évidemment, c'est le président de la République. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a cette image d'Emmanuel Macron qui a mal géré la crise sanitaire, du premier confinement qui nous a tous traumatisés. Maintenant, il faut arrêter, je pense, c'est fini. Voilà. C'est la fin.
Le fameux gouvernement d'action, est-ce que Elisabeth Borne, la toute première ministre, va-t-elle réussir à convaincre, revenons sur le sujet principal, à convaincre les uns et les autres justement de venir rejoindre ce fameux gouvernement d'action? Est-ce que les LR, est-ce que les communistes, est-ce que les gens du PRG, est-ce que d'autres, qu'est-ce que vous dites à Ahmed Lawedge? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ce gouvernement d'action? Faut y aller, faut pas y aller?
Moi je pense qu'aujourd'hui les Français sont en attente.
De
décision. Je dirais, notamment lié à l'inflation, lié à l'augmentation des prix, lié à l'augmentation du prix de l'essence, lié au fait qu'aujourd'hui, pour aller se soigner dans des hôpitaux, c'est toujours aussi le bordel. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guadeloupe ou en Martinique, où les urgences refusaient de prendre les malades s'ils n'étaient pas passés par le 15. Vous vous rendez compte jusqu'où on va là aujourd'hui pour un pays comme la France, qui aujourd'hui était un des... au top de la santé publique dans ce pays.
Et tout ça.
Alors, vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron n'a pas parlé de la retraite. Il a parlé de du pouvoir d'achat. Il a parlé du fait qu'aujourd'hui.
Les salaires.
Il fallait augmenter les salaires, la revalorisation.
Il a parlé de l'essence.
L'essence, etc., etc. Mais voilà, aujourd'hui, les gens, ils sont en attente. Et s'il n'y a pas de décisions qui sont prises rapidement. Alors après, les députés, ils sont là pour voter des lois. En leur âme et conscience par rapport à des décisions qui sont prises par le gouvernement. Moi, je vous dis, l'Union nationale, j'ai pas cru une seconde. Maintenant, je pense qu'il va y avoir, et c'est ça, le tripatouillage qu'il va y avoir aujourd'hui, et ce qu'on voit dans les médias, c'est ce tripatouillage politique qui fait que qui aura la présidence de la commission des finances, qui sera vice-président de l'Assemblée nationale. C'est là aujourd'hui, je dis à un moment donné, la NUPES, entre guillemets, ne fait pas son travail. En sachant qu'en plus de ça, vous avez remarqué que la NUPES, premier acte avant les élections, et aujourd'hui la NUPES, deuxième acte, où chaque formation politique a dit hop, on reste dans notre groupe, on votera peut-être l'intergroupe, mais chacun chez soi et Dieu pour tous. Donc voilà, donc à un moment donné, tout ça, il y a, et je pense.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire?
Est-ce qu'il faut revaloriser?
Ouais. Vous parlez beaucoup du pouvoir d'achat, pardonnez-moi, alors c'est le troisième sujet, mais justement, parlons-en. Alors je vous pose les questions. Est-ce qu'il faut une revalorisation des salariales?
Bien sûr.
Est-ce qu'il faut une revalorisation? Attendez, je finis. Est-ce qu'il faut une revalorisation légale du SMIC? Est-ce qu'il faut que les employeurs, le service public, qu'on revoie tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
Parce que,
il y a un changement de conjoncture économique. Qui dit changement de conjoncture économique? Forcément, évidemment, il faut mettre en face la hausse des salaires qui puisse répondre à l'inflation.
On a trouvé des solutions.
Alors, Ahmed Lawedge, Jean-Pierre Colombiès, et ensuite Médicis.
On a trouvé des solutions quand il y a eu le Covid. Il y a eu de l'argent qui a été injecté.
Et beaucoup.
Non, mais est-ce qu'il y a eu de l'argent ou pas qui a été injecté à cette époque-là pour les entreprises?
Oui,
donc, à un moment donné, on sait trouver de l'argent quand il le faut, mais on ne sait pas trouver de l'argent quand aujourd'hui, il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer un caddie. C'est plus aussi que les salaires bas, c'est aussi les salaires moyens qui sont aujourd'hui dans une situation
4,5 hein.
Donc n'oublions pas
l'inflation,
moi je pense
4,5,
c'est
énorme,
je pense qu'aujourd'hui
les amis.
Voilà, et vous avez beaucoup de gens, la moitié des Français ne partent pas en vacances cette année.
Mais en même temps Bercy demande aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires, les employeurs
ils
ne veulent pas augmenter, ils le font pas,
ils ne peuvent pas.
Mais alors c'est quoi, c'est le chat qui se mord la queue en permanence?
On va pas en... Faut, à un moment donné, faut arrêter de dire n'importe quoi. Je veux dire, Emmanuel Macron découvre.
Je voudrais entendre aussi les auditeurs au 01 53 48 3000.
Emmanuel Macron découvre qu'il y a une crise économique. N'a-t-il pas été ministre des Finances d'un certain monsieur François Hollande? Je me suis pas trompé sur le prénom cette fois. Il a quand même été président de la République pendant 5 ans avec une majorité absolue. Or, tout ce dont nous discutons là, allègrement entre nous, était prévisible. C'était déjà là, c'était déjà dans les tuyaux. Les gilets jaunes ne faisaient qu'exprimer de manière vraiment ultra visible.
C'était dans les tuyaux depuis Hollande.
Mais bien sûr, mais depuis
l'inflation.
20 ans.
Oui.
Depuis 20 ans, on n'a pas augmenté la grille indiciaire de la fonction publique depuis 20 ans. Faut arrêter de découvrir. Ce type nous ment en permanence. C'est ça qui m'insupporte. Voilà. Emmanuel Macron, la symbolique de son quinquennat, de son pouvoir, de sa personnalité.
Vous avez droit à plusieurs clochers.
Mensonge, mensonge. Mais
arrêtez. Vous trouvez pas? Vous grossissez un peu le trait,
non,
là?
Non. Je suis très loin du compte, même. Le mensonge pendant la crise du Covid, vous voulez qu'on en parle? Non, cette dame, la Fatia, elle a dit un truc très important. Le mal-être des enfants.
Bon, vous êtes d'accord, vous savez, avec des enfants qui disent
la mort? Ils ont fait 6 ans qui parlaient de la mort.
Non, je pense que là-dessus,
attendez, je vais solliciter vos débatteurs, vos contradicteurs.
Moi, je pense que là-dessus.
0153483000.
Il y a eu un raté au début. Après, c'est vrai que c'est là où je mets. C'est-à-dire que dans des décisions politiques.
Non, mais Jean-Pierre a dit qu'il passe sa vie à mentir.
Qui doivent être prises rapidement, oui. Notamment sur le pouvoir
d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord avec
notamment
ça?
Sur les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale. Notamment sur la grille des salaires. Non, mais territoriales et les grilles, on dirait, de personnes qui travaillent dans le privé, etc. Tout ça qu'on voit ça, il faut qu'il y ait vraiment un électrochoc. S'il n'y a pas cet électrochoc, je vous le dis, moi, dans 5 ans, c'est un pouvoir du Front National qui arrivera. Parce que faire entrer plus de 90 députés, sans faire de, j'irai, on l'a pas entendu, hein, Marine.
De la politique de
on
terrain,
l'a
comme
pas
la
attendu,
finalement.
on l'a pas entendu et on l'a pas attendu jusqu'au soir où les résultats sont sortis. Là, c'était.
Vous voulez pas vous mouiller? Ben Jean-Pierre, quand il dit, il passe sa vie à mentir.
Non, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ment. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, c'est un fin politique.
Je crois pas.
C'est un fin politique. C'est quelqu'un qui a fait en sorte de faire tomber la gauche à l'époque. Il a essayé de faire tomber la droite. Mais sauf qu'aujourd'hui, il le prend en pleine figure. Parce que, quoi qu'on dise, la gauche, elle existe. Sauf qu'elle est pas, elle a pas été, je dirais, au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'elle a pas été au rendez-vous. Parce que quand j'étais venu ici sur votre plateau, où j'avais expliqué qu'il fallait un candidat unique de la gauche,
vous étiez l'un des premiers à le dire,
gagner l'élection présidentielle, personne m'a cru. Tout le monde a joué.
Il y a eu un débat là, un autre débatteur
voilà,
qui vous
est. Tout le monde a joué en disant non, l'autre Jadot, l'autre Mélenchon, l'autre. Hey. 1 + 1, ça fait pas 2. Donc même si aujourd'hui il faut.
De gauche avec Taubira, c'était
non, mais c'est... non, mais moi j'attends, attends. Moi les radicaux de gauche.
Jean-François. Oula, vous titille.
Non, mais c'est pas grave. Il peut me titiller.
Jean-Pierre.
Moi,
vous allez y arriver, Ahmed.
Ce que je dis, c'est que dans ce pays, s'il n'y a pas un candidat de la gauche.
Mais il vous a répondu, vous avez dit avec Taubira.
Non, j'ai pas dit. Nous, on n'était pas pour présenter Taubira à tout prix.
Non.
N'oubliez pas une chose. Elle a fait l'élection, de la primaire populaire. Mais elle n'était pas. Si demain il y avait un consensus entre toutes les formations politiques, et d'ailleurs ça s'est fait à Romainville, en Seine-Saint-Denis, où personne n'a dit non, je me retire pas, elle s'est dit si personne ne se retire, j'y continue.
Que faut-il faire alors concernant, est-ce qu'il faut la hausse du SMIC, la revalorisation des salaires, etc.?
En fait, toutes ces questions sociales, c'est des questions sociales réelles qui sont abordées maintenant, je pense, par Emmanuel Macron, parce que pendant ces 5 dernières années, on a eu tous ces mouvements sociaux qui n'ont pas été écoutés.
Il faut déployer la prime Macron.
Voilà. Et cette gauche qui a été fracturée et qui a été divisée et qui peut-être essaye maintenant de se reconstruire difficilement, certes, mais qui essaye quand même. Ça, on peut pas. Moi, je suis pas pour la NUP, mais je le dis très très clairement. Au moins, ils essayent de construire quelque chose. C'est bien. Ils ont construit un front qui fait peur. Au moins, ça, on peut le dire. Non, mais
la NUP, c'est comme le Parti socialiste à l'époque avec François Mitterrand, qui a assassiné le Parti communiste pour pouvoir faire en sorte de le mettre dans la boucle et puis après le tuer.
D'accord, mais
et là, la NUP, Mélenchon, il a la même fibre que François Mitterrand. C'est en gros, d'accord, je te sûr. Prends, je t'élimine, et c'est moi le patriarche.
Ça, c'est vos idées.
Mais moi, je te le dis.
Factuellement parlant, ils ont des sièges à l'Assemblée.
Oui.
Ils pèsent à l'Assemblée.
Tu te rends compte que là, les socialistes sont passés de
135
de combien de députés à 20?
Non, mais bien sûr.
Pourquoi? Pour sauver leur petite place.
Oui.
Et c'est ça que les Français.
Voilà. Je vais venir là-dessus. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que la NUP n'a pas totalement réussi ce coup. Pour moi, il y a une partie qu'ils ont réussi, une partie qu'ils ont ratée.
Excuse-moi.
Je dis pas qu'ils ont gagné les élections. Je dis qu'il y a une partie de leur mission qui ont été réussies. Maintenant, par rapport, par rapport au problème à l'Assemblée, moi je dirais que il y a deux problèmes. C'est que Emmanuel Macron a vu très clairement qu'il a perdu cette élection. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné toute la patate chaude à Elisabeth Borne et il est parti, il va faire sa politique internationale. Finalement, il a eu peut-être une stratégie qui peut être intéressante, mais bon. Voilà. Et puis ensuite, il y a toute cette politique politicienne qui perdure depuis trop d'années. Il y a tout ce parachutage qui a tué aussi les élections. Enfin, ces élections étaient grotesques du début jusqu'à la fin. Et là, on en voit le résultat et on pensait que le résultat allait être bon. Mais ce résultat est grotesque, au même titre que toutes les élections qui ont eu. Les régionales ont été grotesques, les présidentielles ont été grotesques, tout a été grotesque du début jusqu'à la fin. Donc, au final, parler de conditions sociales, c'est normal, les conditions sociales. On demande depuis des années, tout ce que vous dites là, Adil, on le demande depuis des années. Maintenant, Emmanuel Macron se voit devoir attirer un maximum de personnes. Donc, bien évidemment, qu'il va aller sur des questions sociales, qu'il va aller sur.
Tout le monde parle de pouvoir d'achat. Jean-Pierre Colombier.
Est-ce que je veux finir là-dessus? Emmanuel Macron va faire, pendant ces prochaines semaines, il va faire la girouette entre les partis avec différentes propositions de loi. Il ne va pas réussir à construire un gouvernement. Ça, il le sait très bien. Il va pas réussir. En revanche, c'est certain que sur certains textes de loi, il va vouloir attirer, voilà, il va faire la girouette, comme je dis, à droite, à gauche.
Jean-Pierre,
droite,
je vous donne la parole juste après la pub. Ahmed Lawedj, reste avec nous tout de suite au 01 53 48 3000. Nous vous attendons. Qu'est-ce que, évidemment, comment vous voyez les choses concernant l'inflation, le pouvoir d'achat? Est-ce que vous pensez que ça suffit, la revalorisation des salaires? Est-ce qu'il faut la hausse du SMIC? Bref, parlons-en avec vous aussi. 01 53 48 3000. À tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkan.
On reprend les informer, dernière ligne droite. Allez, respect, hein. Merci. Je transmets, tiens le bonjour à Hena, mais c'est vrai, tiens, viens nous dire ce que tu disais en antenne. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Dis ce que tu me disais à l'antenne. Je te donne le micro, je te donne l'autorisation.
Merci beaucoup de
chroniqueur,
de m'offrir
l'icône de chez Bilal Denman.
Hier, j'ai croisé quand même beaucoup de personnes, oui, là, dans un tournoi de football.
Dans quelle ville?
À Paris.
À Paris?
Ouais, oui. En Île-de-France.
Oui.
C'était au fort d'Aubervilliers.
Oui.
Et Adil, il a beaucoup, beaucoup de fans.
Je les embrasse. Je les embrasse.
Tu leur passes un grand bonjour.
On
le fait à travers la radio.
Exactement.
Et
je renvoie ce que vous voulez me dire.
Dimanche prochain, je leur dirai en direct.
Vous leur direz, hein, je compte sur vous. Hein.
Voilà.
Merci pour votre fidélité, évidemment, et tous nos débatteurs influenceurs qui sont avec nous et qui débattent de façon, évidemment, intelligente. Qu'est-ce qui vous arrive, vous?
Toujours le grand Adil.
Qu'est-ce qui vous arrive, là? Je vous ai vu fermer les yeux, partir... Vous allez faire comme Giroud, là? Vous allez vous endormir? On va le perdre, notre Jean-Pierre Colombiès. On va le perdre. Allez, messieurs, vous savez quoi? Autre sujet, vraiment, je veux qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Dites-moi tout.
Rien. J'ai dû juste finir. C'est la phrase que j'avais tenté de commencer.
Mais il faut qu'on parle, moi, quand même, du G7, de Zelensky qui fait pression, là, en ce moment. Je vous le disais tout à l'heure, cet après-midi, on a appris que, un centre commercial a été touché par un missile russe. Zelensky qui fait pression, qui profite du G7, justement, pour mettre la pression et pour dire stop à la guerre en Ukraine avant la fin de l'année. Franchement, est-ce qu'il y a une impasse? Est-ce que le G7 va servir à quelque chose? Évidemment, est-ce qu'il va pouvoir notamment convaincre Poutine pour arrêter cette guerre, mettre fin à cette guerre? Zelensky, qui est l'invité aussi du G7. Bref, messieurs, je vous donne la parole. Mehdi Jaziri.
L'Union Européenne n'a servi à rien. Les États-Unis n'ont servi à rien. L'OTAN ne sert à rien. Qu'est-ce qui va arrêter Vladimir Poutine, le G7? Le G7 n'a pas me
forcé. Bah, il a intimidé en plein G7, justement.
Il a fait exploser un missile.
Il a fait exploser, justement.
C'est la preuve, c'est-à-dire que vous l'interprétez comme ça. Pour moi, ça, vous me faites pas peur, voilà, c'est tout. Rentrez chez vous, vous me faites pas peur. Là,
C'est un peu gros, non?
Non, c'est la réalité depuis le début, c'est comme ça.
Ça s'appelle la guerre.
Oui, ça s'appelle la guerre. Bon, alors parlons-en, justement. Jean-Pierre Colombiès, Ahmed Lawedj.
C'est toujours dramatique quand on a des nouvelles comme celle-là, parce que ça frappe des innocents, ça frappe des civils, c'est toujours terrible. Je n'ai pas en tête, moi, l'histoire d'une guerre propre, hein, tout simplement. Ça n'existe pas, les guerres propres. Hein. Les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont bombardé Hambourg, 70 000 morts.
Pas besoin d'aller si loin en Irak.
Des exemples, en termes de nombre, c'était pas mal, hein, 70 000 morts, pour rien, pour punir l'Allemagne. Donc voilà, quand on veut punir des civils, on peut punir des civils. L'Irak, effectivement, était un des symboles, pour moi, de la guerre
manipulée. La Libye aussi.
Manipulée, qui plus est, par des médias très, très complaisants, puisqu'on a justifié une guerre pour rien, faut quand même le savoir. Enfin, si, avec des intérêts économiques, mais ça ne se justifie pas autrement.
Après, qu'est-ce qui peut arrêter Poutine? Qu'est-ce qui pourrait régler l'affaire? Peut-être qu'aussi... on parle tout le temps de Poutine. À la fin, ça m'agace un petit
peu. C'est pas Poutine, la guerre.
Pourquoi ça vous agace?
Mais ça m'agace parce qu'on oublie aussi la responsabilité de Zelensky dans l'histoire.
Oui.
Sur les civils ukrainiens qui
ça y est, il va se faire des ennemis, je le
peut-être,
sens.
Peut-être, mais il faut à un moment donné... J'en reviens toujours à l'analyse des faits. Voilà, des faits, simplement des faits. Il n'y a pas de parti pris.
Je vous reconnais, là.
Je ne suis pas ukrainien, je ne suis pas...
Invité récurrent chez RT, je comprends mieux maintenant.
Non, mais je ne suis pas bien.
Ah là, la clochette, c'est vrai. Ça y est, il a mis la clochette, j'ai le droit à la clochette.
T'as parlé des radicaux de gauche, fallait pas.
C'est ça. Non, je dis simplement, il y a pas, dans une guerre, il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté. Chacun a sa part de responsabilité. C'est tout. Je pense qu'à ce niveau-là, on n'est pas tous très bien nécessairement informés sur les tenants et les aboutissants et les responsabilités réelles.
Pour vous, Zelensky, il a aussi sa part de responsabilité.
Mais bien évidemment. Mais il va surtout bien falloir s'asseoir autour d'une
table. Mais ce n'est pas lui qui a ouvert la guerre.
Il a peut-être rien fait pour qu'elle n'ait pas.
Oui, mais une guerre, ça se fait pas tout seul.
Exactement.
Enfin, je veux dire, dans une guerre, il y a toujours un ou deux, enfin, à partir de deux. Enfin, une guerre, ça se fait déjà à partir de deux personnes. Ça peut aller plus loin. Il y a déjà deux personnes dès le départ. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que une guerre, c'est forcément terrible. C'est comme si demain je fais un journal et je vous dis un crime horrible. Un crime, c'est de facto horrible. Une guerre, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas de guerre gentille.
Non, mais le G7, est-ce qu'il va pouvoir justement, Zelensky a exhorté justement son vœu aux dirigeants du G7 de redoubler d'efforts, les amis, pour mettre fin, un terme rapide, à cette guerre qui fait, vous l'avez vu encore les images là, devant vous, vous avez une télé, on a vu les images jamais de la Wedge quand même, qui font ravage. Vous avez vu ces images qui font ravage, ce centre commercial, on parle de 10 morts et des centaines de blessés. Enfin, franchement, les amis. Là, c'est des innocents.
Ce que je dis aujourd'hui, c'est que là, on est rentré. Ça va durer longtemps. On est rentré.
Parce qu'il n'est pas en train d'intimider le G7.
On est rentré dans une phase de négociation pour savoir qui va payer. Et là, aujourd'hui, vous avez beaucoup de signes qui disent oui, mais ça serait bien que ce soit la Russie qui paye. Mais la Russie, ça ne payera pas tous les dégâts qu'il y a eu. Je pense que c'est là-dessus qu'à un moment donné, voilà, sur le fait que Zelensky, enfin, l'Ukraine rentre. Soit accepté en Europe, ça va mettre des années. Ça va mettre des années. Donc, à un moment donné, moi, la question aujourd'hui, c'est que Zelensky, il ne faut pas aussi qu'il fasse en sorte de dire c'est moi le plus fort. Et donc, à un moment donné, j'impose à l'Union européenne, au G7, du fait que aujourd'hui j'ai toutes les villes qui sont bombardées par la Russie, mais de l'autre côté aussi, hein, t'inquiète pas que Zelensky aussi il bombarde, hein.
Heureusement, mais il se défend.
Il faut le savoir aussi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que, et moi je l'avais dit ici, l'Europe pour l'instant a repris un peu. Je suis pas très d'accord avec toi, a repris un peu le fil conducteur parce que c'est le G7, mais dans 15 jours on n'en parlera plus. Ça sera
qui après, est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est Joe Biden ou est-ce que c'est le comment?
C'est les Américains.
C'est les Américains.
Avec l'OTAN, ils ont une main quand même sur la même partie.
Bah pour moi les chefs d'orchestre c'est les Américains.
Avec l'OTAN ils ont.
Et d'ailleurs cette guerre c'est aussi le fait qu'à un moment donné c'est qu'il y a un œil américain sur la Russie qui fasse qu'à un moment donné voilà qui.
Il y a que des conseillers aussi sur place pour le dire.
Ça aussi ça.
Non mais moi je connais pas ça. C'est toute une américanisation culturelle, militaire, économique. Voilà c'est très loin.
Vous n'avez pas remarqué que dans le Donbass, vous avez beaucoup d'Ukrainiens qui veulent être russes. Vous avez vu
on les entend jamais.
Mais t'en as plein qui te disent
non. Enfin, plein, je sais pas, mais en tout cas, il y en a pas mal.
Russe. Arrêtez. Ouais. Tout le Donbass, là, etc. À un moment donné.
Les séparatistes, après, pas du ciel.
Après, il y en a beaucoup qui étaient pro-russes au départ qui ne le sont plus maintenant. Il faut quand même être quand même neutre sur le sujet. J'ai des gens sur place qui me traînent.
Je vais faire une blague aujourd'hui. Moi, ça me fait rire aujourd'hui quand on me dit il n'y a pas de pâtes, c'est l'Ukraine. Il n'y a pas d'essence à cause de l'Ukraine. Il n'y a pas de médicaments à cause de l'Ukraine.
Il n'y a pas d'huile aussi.
Moi, je ne savais pas que l'Ukraine avait une force, je dirais, de frappe, notamment sur l'approvisionnement de tout ça
sur le blé
en Europe. Oui, non, même le blé. Mais voilà.
La crise mondiale n'est pas provoquée que par ça. Par contre, la spéculation profite de cette situation.
C'est comme les patrons qui demandent aux gens de réduire leur consommation d'énergie pour l'hiver, etc. C'est bien évidemment. Mais ce qu'il faut retenir
à qui profite le crime? Les augmentations, c'est qui les paye? C'est encore le citoyen.
Exactement. Merci messieurs, c'était un plaisir évidemment de démarrer cette toute nouvelle semaine. Jean-Pierre Colombien, est-ce que je peux vous souhaiter cette semaine?
Beaucoup de bienveillance.
Bienveillance. Je veux dire, merci Hamidi Jaziri, bienveillance bien sûr. Ahmed Lawedge, vous êtes toujours parmi nous la semaine prochaine ou dans les semaines
alors,
à venir?
Moi je serai parmi vous, je serai là tout le mois de juillet sauf du 8 au 15, mais je suis disponible bon. avant le fait que tu arrêtes l'émission pour partir te reposer.
Exactement. Ah ben j'espère bien, comme tout le monde. On en a besoin. Bilal Lenman, bonsoir mon cher Bilal.
Bonsoir à vous, messieurs.
Comment ça va mon cher Bilal?
Ça va très très bien.
Qu'est-ce que tu proposes dans Time Sport?
Moi je propose d'accueillir Médé, un artiste avec nous, champion de taekwondo, et aussi de passer sur Neymar. Voilà, Neymar qui est poussé vers la sortie avec le Paris Saint-Germain. Sans oublier
Marca, c'est quoi la une de Marca?
L'African Power.
Ouais, l'African Power, exactement.
Ils ne sont pas nés en Afrique. À comprendre, on va essayer de, voilà, de comprendre tout cela.
Faut nous expliquer tout ça, ouais. Parce que c'est vrai.
L'Algérie qui a battu l'Espagne hier contre, au jeu méditerranéen. Contre une belle équipe espagnole que j'ai vu le match.
Une belle cérémonie d'ouverture aussi.
Très belle cérémonie.
Vraiment, c'est bien pour le continent africain.
Bilal Lenman, c'est à 20h, 21h.
C'est maintenant, là.
Allez, sort
tout de suite. Tout de suite, là, il me jette, ça y est. À la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.